France Culture.
Les négociations annuelles obligatoires battent actuellement leur plein dans les entreprises concernées et les augmentations de salaire devraient atteindre 2,5% de la masse salariale cette année. C'est moins qu'en 2024 où elles atteignaient 3,5% et qu'en 2023 où elles s'établissaient là pour le coup à 4,75%. Une moyenne qui cache par ailleurs les cas particulièrement conflictuels où l'on ne parvient tout simplement pas à trouver un accord, conduisant souvent à la grève des salariés. Cette hausse en demi-teinte, qui est certes liée au ralentissement de l'inflation et qui varie beaucoup selon les secteurs, raconte en creux un mouvement beaucoup plus fondamental, celui de l'évolution du rapport de force au sein des entreprises et surtout de la valeur accordée au travail fourni, exprimée de fait sous forme de salaire. Or, depuis une quarantaine d'années, non seulement les conditions de négociation se sont durcies, mais surtout leur cadre s'est déplacé. Plutôt que le traditionnel bras de fer entre représentants des syndicats et ceux de la direction, une soupape dérivatif s'est mis en place qui consiste à laisser l'individu négocier seul ou presque ses primes et autres façons d'améliorer sa rémunération et ce sans toucher de façon trop pérenne ou générale au salaire. Alors du versement du salaire de base, soit la norme dans les années 50, progressivement les contraintes et les cadres institutionnels se métamorphosent, se font plus mouvants et l'on passe à des négociations menées dans le cadre très spécifique propre à chaque secteur, puis à chaque entreprise, puis à un système de rémunération beaucoup plus individuel. L'essor des primes et des bonus constitue donc une façon de contourner la difficulté des négociations collectives, on le comprend, pour laisser l'individu prouver auprès de ses supérieurs sa valeur. Et le salaire devient, de fait, un outil de management pour motiver, encadrer et surtout inciter à faire ses preuves. Entendez-vous l'écho prend donc sa place à la table des négociations dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Cassandre Puel et Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Alex Tang. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Camille Signoretto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Vous êtes rattaché au laboratoire Dynamique sociale et recomposition des espaces, le LADIS. Et votre ouvrage, co-dirigé avec Baptiste Giraud, s'intitule « Un compromis salarial en crise. Que reste-t-il à négocier dans les entreprises ?» Vaste question qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Un ouvrage qui est sorti en 2023 aux éditions du Croquant. Et puis Élise Penalvaïcher, vous êtes également avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à Paris-Dauphine PSL et chercheuse à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales, l'IRISO. Et votre ouvrage, La frustration salariale, à quoi servent les primes? Une autre question qui va aussi nous intéresser, apparue en mars 2024 chez Sorbonne Université Presse. Alors Camille Signoretto, pour donner un paysage global aussi de la situation dans laquelle on se trouve et puis dans quel cadre finalement sont négociés ou pas ces salaires, on compte fin 2023 un peu plus de 27 millions de salariés en France, tandis que 3 300 000 personnes occupe un emploi non salarié, donc le salariat reste une vaste majorité, on va dire. Alors on connaît un grand mécanisme d'encadrement par les pouvoirs publics, celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le fameux SMIC, qui est aujourd'hui de 1 801,8 € brut. Est-ce qu'on peut dire que ce salaire plancher, ce filet de sécurité, ce salaire minimal est finalement la principale façon pour l'État de se saisir de cette question des salaires?
Oui, bien sûr, le SMIC reste la façon pour l'État de contraindre, à dire, certaines entreprises à donner un salaire minimum aux salariés. Donc, c'est pas nouveau, c'est assez vieux, puisqu'avant le SMIC, il y avait le SMIG. Le SMIC, néanmoins, revalorisations a des conséquences sur, ensuite, les salaires minima de branche. Donc là, c'est au niveau de la convention collective pour les salariés qui sont couverts dans une entreprise par une convention collective. Et chaque revalorisation du SMIC peut avoir des conséquences sur ces salaires minimums parce que s'ils sont en dessous du salaire minimum, les partenaires sociaux dans les branches sont obligés de renégocier ces minima de branche. Donc c'est ce qu'on a vu ces dernières années, justement au moment de l'inflation. Le salaire minimum, il est indexé automatiquement à l'inflation. Donc là, à chaque fois qu'il y a une forte inflation, le SMIC augmente en conséquence. Et ce qu'on a vu, du coup, c'est dans certaines branches, ces salaires minimums conventionnels pour le bas
Les salaires qui étaient juste au-dessus de ce fameux SMIC. De fait, il y a un effet de domino presque.
Voilà, exactement, il y a un effet de domino. Mais ces salaires minimums étaient même en dessous du SMIC lorsqu'il était revalorisé là, de manière vraiment automatique avec l'inflation en 2023 et 2024. Et du coup, les partenaires sociaux étaient obligés de négocier. Hein. Dans cette période, le président Macron avait même sommé les branches qui avaient ces salaires minimums en dessous de renégocier pour qu'ils deviennent supérieurs.
Et ce qui m'amène de fait à cette question, et notamment dans le contexte très spécifique qui est le nôtre, celui de fait de l'inflation, on l'a dit, le SMIC est revalorisé chaque 1er janvier de chaque année, ça c'est automatique. Alors il y a une petite exception cette année, enfin l'année dernière de fait, puisqu'il a été revalorisé de 2% le 1er novembre 2024, avec un peu d'avance donc sur le 1er janvier 2025. Pourtant, Camille Signoretto, vous dites dans votre ouvrage qu'en 2022, l'augmentation des minima salariaux obtenue par la voie des fameuses négociations de branches dont vous venez de nous parler, est resté inférieur au niveau de l'inflation. Donc dès lors, deux questions. Le SMIC se négocie, rien n'est automatique de fait, malgré le fait que l'indexation soit fixée dans la loi. Donc, qui se charge de négocier ce SMIC? Et puis comment expliquer cette indexation qui n'en est pas une?
Alors, sur le SMIC, qui est vraiment le salaire minimum national, il y a bien une revalorisation automatique, mais c'est ensuite sur au niveau des branches professionnelles où il y a d'autres salaires minimums en fait. Ces négociations-là de branches qui ont amené à des augmentations de salaires qui étaient inférieures à l'inflation, malgré le fait que voilà, on les a un petit peu aussi obligés à négocier pour au moins que des salariés qui étaient en bas de la distribution ne soient pas complètement rattrapés par le SMIC, en fait.
Et dans ce cadre-là, qui négocie? Quelles sont les grandes forces en présence? Est-ce que ce sont les représentants patronaux des branches, des secteurs concernés, des branches concernées versus les représentants des syndicats? Quelle est la place de l'État dans ces négociations-là?
Alors, effectivement, l'État, on va dire, chapeaute un peu le tout en essayant d'obliger certaines branches à négocier, à dynamiser un peu la négociation. Et ensuite, c'est les organisations syndicales représentatives des salariés versus les organisations patronaux, les représentants du patronat. Et ces négociations peuvent durer un certain temps et surtout pas forcément aboutir à un accord, ou en tout cas à un accord qui ne soit pas si favorable aux salariés. Et c'est pour ça qu'on a vu malgré tout des augmentations de salaire, mais qui restaient inférieures à l'inflation.
Donc voilà pour ce cadre global. On voit l'État en tant qu'acteur régulateur, on va dire aussi, de cette question des salaires à travers le SMIC, qui est un peu le mécanisme par excellence sur lequel il y a de fait un apport très fort de la loi, du cadre législatif qui vient encadrer tout cela. Élise Penel-Vaïcher, il faut aussi rappeler, pour comprendre bien le cadre dans lequel se jouent les marges de manœuvre aussi des négociations, que la fixation des rémunérations respecte un cadre légal, celui tout simplement du contrat de travail, une fois défini dans le cadre de négociations entre employeurs et salariés en fonction du temps, du rendement, d'une grille de qualification au moment de l'embauche. Et puis, dans le cadre de cette rémunération minimale, il faut se demander dans quelle mesure le salaire il peut être aléatoire. Une fois qu'on a signé un contrat, finalement, dans quelle mesure ces grilles-là sont-elles fixes?
Alors, effectivement, le salaire, c'est la contrepartie liée à l'établissement d'un contrat de travail, la contrepartie au travail. Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression que le salaire, c'est quelque chose de facilement compréhensible. Et en fait, pas du tout. Pas du tout pour plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que depuis une vingtaine, trentaine d'années, là où avant les salaires étaient fixés par des grandes catégories, notamment liées aux qualifications, on voit donc depuis 20, 30 ans un mouvement à la fois d'individualisation et de complexification des salaires. Ce qui veut dire qu'on a, en termes de rémunération, pas seulement un salaire fixe, mais aussi d'autres types d'éléments de rémunération qui peuvent être extrêmement variés, variables et adossés à plein de choses très 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 différentes les unes des autres. Par exemple, des primes de performance, des primes liées aux contraintes du poste, des primes collectives, de l'intéressement, de la participation, des choses très compliquées comme ce qu'on appelle l'article 83 qui est quelque chose lié à la retraite des cadres, des stock options qui sont pour le coup des dispositifs qui sont connus pour être versés dans le secteur de la finance. Et cette complexification et cette individualisation, elle fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des packages de rémunération. Et le terme package, il est assez bien trouvé parce que c'est effectivement quelque chose dans lequel on peut mettre plein d'éléments différents et disparates qui concernent différentes dimensions. Et ce qui est assez intéressant aussi là, c'est que ça vient flouter un peu la ligne de partage entre capital et travail, parce que le salaire, il est supposé venir rétribuer le travail, mais certains de ces dispositifs intéressent aux bénéfices de l'entreprise ou sont associés à des mécanismes qui sont liés au capital et plus au travail, comme les stock options. Donc ça, c'est un premier élément, c'est depuis 20-30 ans, ce mouvement d'individualisation et de complexification des salaires, il a effectivement un peu flouté la manière dont les salariés perçoivent leur salaire. Et un des points, moi, qui est ressorti dans l'enquête que j'ai faite, c'est que je pensais que les gens savaient à peu près combien ils gagnaient, et en fait, c'est pas du tout évident. Du fait de cette complexification et de ces paquets dans lesquels on met des choses très variées, qui peuvent aussi dépasser la rémunération. On pourrait faire rentrer dans cette rémunération des questions de complémentaire santé, de mobilité, de place en crèche. Ces questions, aujourd'hui, elles se posent. Donc, voilà, la contrepartie au travail, elle est beaucoup plus englobante, holistique, la définition du salaire, j'ai envie de dire, que juste... un élément en termes de montant. Et aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer, de construire cette perception de savoir, c'est-à-dire percevoir au sens propre comme au sens figuré, savoir combien est-ce qu'on perçoit pour sa situation de travail. Et ça amène un deuxième élément, c'est aussi que le salaire, on a l'impression que c'est un montant. Effectivement, c'est un montant, c'est matériel, c'est objectif, mais ce n'est pas que ça. Et ce salaire, il est aussi relatif. Et il s'évalue aussi comparativement à ce que gagnent les autres et dans la relation qu'on a avec ses collègues de travail, les gens qui ont le même diplôme que soi, les personnes de sa famille. Donc voilà, il y a aussi cette difficulté-là, au-delà de l'individualisation et de la complexification, de définir le salaire à la fois comme quelque chose de matériel, mais aussi comme quelque chose de l'ordre de l'opinion, qui est subjectif et qu'on se construit aussi au regard de ce que les autres gagnent.
Finalement, le dénominateur commun, en tout cas ce qu'on comprend dans cette incompréhension vis-à-vis du salaire, c'est qu'il y a de fait cette part variable dont on ne sait pas comment elle va être évaluée. En tout cas, on ne connaît pas forcément avec précision les critères. Et puis à partir du moment où, vous l'avez dit, Élise Penelva-Yecher, à partir du moment où tout repose sur une évaluation potentiellement subjective, il est très compliqué de savoir à quoi s'attendre. Tout de même, il y a une caractéristique générale et qui est assez intéressante, c'est que la non-fixité des salaires semble être devenue une norme. Ce n'est pas réservé à quelques secteurs ou à quelques postes. Selon les chiffres publiés le 21 janvier 2025 par la DARES, 94,5% des salariés perçoivent au moins un élément variable de rémunération en 2022 et 22,9% de la rémunération brute totale en 2022 correspond à des éléments variables. 94,5%, on pourrait le dire, c'est quasiment la totalité, c'est énorme. Est-ce que c'est de cela dont on parle quand on parle de négociation salariale? C'est finalement ces 22,9%, est-ce que c'est ça qui reste à négocier à chaque fois? Est-ce que c'est cela finalement qui occupe le cœur des négociations salariales aujourd'hui?
Alors, il y a des éléments qui doivent être négociés du fait du cadre législatif, intéressement, participation. Après, il y a d'autres éléments qui se négocient au niveau des équipes, qui se négocient aussi individuellement entre les équipes. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la négociation, elle a lieu à tous les étages, au niveau macro, au niveau méso de l'entreprise et au niveau individuel. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que effectivement, cette recours majoritaire aux primes aujourd'hui, ça on peut le dire comme ça, il est assez récent et il s'est refait par le haut des échelles salariales. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui on a une espèce d'image d'épinal de la prime, c'est le bonus du trader, c'est le stock option. Mais la prime, c'était l'apanage du salaire ouvrier avant. Effectivement, cet usage de la prime qui est fait aujourd'hui, il est différent de celui qu'on pouvait avoir auparavant dans les 30 Glorieuses. Et cet usage, il s'est fait effectivement sur une idée de motiver, d'inciter, l'idée que si on paye plus, ça va motiver plus. Et ça, c'est sa force d'évidence aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on peut complètement remettre en question. Et il faut un peu déconstruire cette évidence. D'où vient cette idée que payer, ça va motiver ? Ça vient de la théorie de l'agence et des incitations, incentives en anglais, qui est une théorie à situer dans l'histoire. Elle a à voir avec le développement de la grande corporation au XXe siècle, c'est-à-dire au moment où le propriétaire de l'entreprise n'est plus aux commandes. On n'a plus une petite entreprise gérée par son patron, mais on a des grandes corporations avec l'arrivée d'un type de salarié un petit peu particulier qui sont les managers. Et ces managers n'ont pas, selon la théorie de l'agence, les mêmes intérêts que ceux des actionnaires, parce que justement, ils n'ont pas la même position. Et l'idée de la théorie de l'agence, ça va être de réaligner l'intérêt des managers sur celui des actionnaires, qui est de faire le plus de dividendes possible. Ce qui n'est pas le cas des managers, parce que négocier, c'est aussi d'autres éléments que juste la motivation. Ça peut être aussi difficile, ça met un peu le bazar des fois dans les équipes. C'est important d'avoir des situations de travail pacifiées, donc on voit que c'est pas tout à fait...
Oui, ça peut être un facteur de déstabilisation.
De déstabilisation. Et donc la théorie de l'agence, elle dit que pour aligner l'intérêt du manager qui est salarié sur celui des actionnaires, eh ben, il faut l'inciter avec des primes qui l'intéressent à la valeur actionnariale de l'entreprise. Et c'est bien cette idée de valeur actionnariale qui est mise en avant dans ce système-là. Or, cette motivation par l'argent, elle est héritée du modèle de la théorie de l'agence, mais dès qu'on met des données un peu empiriques dans le modèle, on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plein de raisons, parce que on peut se concentrer sur une tâche en particulier et faire ce qu'on appelle un effet salami, c'est-à-dire saucissonner ses tâches en fonction de la performance. Ça ne marche pas parce que il y a plein d'effets pervers à la mise en place de ces dispositifs. Et puis ça ne marche pas parce que motiver les gens par l'argent, c'est une idée qui, comme je l'ai dit, faut la déconstruire. Il y a d'autres types de motivation, la reconnaissance du travail,
l'organisation du temps de travail, les conditions de travail aussi.
Absolument.
Le sens qu'on met aussi dans son travail et donc la raison d'être, la fameuse de l'entreprise, tout cela vient jouer finalement sur un environnement global. C'est ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Élise Penalva-Yecher. On a donc un paysage qui est finalement assez fractionné. On a cette idée d'un SMIC où il y a un minimum légal inscrit dans la loi avec des négociations où l'État est plus ou moins présent. Cette idée, par ailleurs, d'une immense majorité de salariés qui sont soumis à une part très variable de leurs revenus pour des raisons qu'on va évidemment voir aussi en termes d'évolution historique du cadre de ces négociations. Camille Signoretto, si on en revient au contrôle, à l'encadrement de la part fixe, mercredi dernier, le 19 février, le Sénat a rejeté une proposition de loi communiste qui vise à indexer les salaires sur l'inflation, finalement faire avec tous les salaires ce qu'on fait pour le SMIC. Donc si on veut vraiment mettre les choses au clair, dès lors qu'un salarié n'est pas payé au SMIC et se situe au-dessus de fait, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun cadre obligatoire qui est fixé au niveau national qui oblige à la réévaluation et notamment en fonction de l'évaluation? En somme, les choses ne se font jamais naturellement. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi, Camille Signoretto?
Alors oui, à ce détail près, il y a le SMIC et il y a quand même ce niveau intermédiaire, méso, qui est la branche de la convention collective, où là, il y a quand même encore des minima, des grilles de salaire qui sont encore négociées en plus dans les branches. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé avec les ordonnances Macron, notamment. Bien évidemment, on peut dire, ça touche pas tous les salariés. En fait, ça touche quand même une majorité de salariés, puisque en France, les accords qu'on appelle de négociation collective de branche, de convention collective, la plupart sont étendus à l'ensemble des salariés de la branche. Donc, même s'il reste des exceptions, il y a ce autre filet, on va dire, qui dépend bien sûr encore des négociations.
Donc c'est pas inné. Enfin en tout cas ça n'est pas dû, on va dire.
Et ça dépend bien évidemment du rapport de force entre organisations syndicales et représentants patronaux et donc du coup aussi derrière de la capacité des syndicats à mobiliser des salariés lors de ces négociations. Donc ça c'est très variable selon les secteurs d'activité et selon du coup la syndicalisation derrière des salariés dans ces secteurs d'activité. Par ailleurs, pour revenir sur ce que disait Élise, mm-hmm. dans cette partie également de la part variable, donc effectivement, hein, aujourd'hui c'est même plus d'un cinquième de la rémunération qu'on prend des éléments variables, on peut dire que la partie prime, ce qu'on appelle prime, complément de salaire, est probablement quelque chose qui va être négocié individuellement. Mais il y a aussi d'autres éléments, comme l'épargne salariale. Élise a commencé à en parler. Donc l'épargne salariale, c'est quoi ? C'est surtout les primes d'intéressement, les primes de participation. Et ça, derrière, il y a quand même de la négociation collective. Mais cette fois, qui se fait au niveau plutôt des entreprises, qui peut aussi se faire au niveau des branches, hein, mais qui peut, voilà, au niveau des entreprises, chaque entreprise peut négocier avec les représentants syndicaux, voire aujourd'hui les représentants élus du comité social et économique, s'il n'y a pas de représentants syndicaux, des accords pour voilà, négocier, mettre en place une prime d'intéressement, une prime de participation, et ensuite négocier une éventuellement hausse ou réduction de cette prime. Donc il y a quand même une partie, voilà, qui est encore de la négociation collective. Et dans ces éléments variables, vous avez donné le chiffre de la DARES, et la DARES donc donne les différentes composantes. Il y a aussi, moi ça m'avait surpris quand j'étais allée voir, les heures supplémentaires.
Tout à fait.
L'élément variable, c'est aussi les heures supplémentaires, qui est très voilà, différent selon la catégorie socio-professionnelle en fait des salariés. Et les heures supplémentaires, bon, là c'est plutôt de l'individuel. On va proposer aux salariés de faire des heures supplémentaires, mais la façon dont ces heures sont rémunérées peut là aussi être négocié de manière plus favorable, mais aussi moins favorable, dans les entreprises par un accord et par donc négociation collective.
Et juste pour donner un petit ordre d'idée, c'est vrai qu'on vous avez dit un cinquième reste du salaire reste une part variable dans ce un cinquième. C'est vrai que les primes finalement représentent seulement, je mets plein de guillemets, mais seulement 15,1%, tandis que l'épargne salariale concerne 51,3% des salariés et les rémunérations liées aux heures supplémentaires que vous évoquiez à l'instant, Camille Signoretto, représente 42,4%. Donc c'est vrai que ça représente tout de même des parts assez importantes et qui sont de fait encadrées. Il y a un autre encadrement qui est pour le coup obligatoire et auquel il semble compliqué de déroger, ce sont les fameuses négociations annuelles obligatoires que je mentionnais dans mon introduction, les NAO comme on dit. Ça pour le coup, elles portent leur nom, hein. Obligatoire, c'est écrit dessus, on va dire. Au-delà de ça, s'il y avait pas ce cadre-là, s'il n'y avait pas ce cadre de négociation qui sont donc obligatoires tous les 4 ans, et d'ailleurs la proposition de loi que je mentionnais à l'instant envisageait aussi de réduire cette durée-là et de la mettre tous les ans et non pas tous les 4 ans, ça c'est un cadre obligatoire. Alors il n'y a pas d'obligation de résultat puisque de fait il y a parfois tellement de conflictualité que l'accord n'est pas trouvé, mais ça reste tout de même un cadre légal fixé par l'État, Camille Signoretto.
Oui, tout à fait. Donc les NAO, hein, tous les salariés des grandes entreprises connaissent ces NAO, puisque effectivement, ça peut être quelque chose d'institutionnalisé dans les entreprises. Néanmoins, donc c'est obligatoire, mais c'est obligatoire dans les entreprises qui sont pourvues de délégués syndicaux.
C'est ça.
Or, il y a quand même 43% des entreprises de 10 salariés ou plus, on est toujours hein, sur des champs voilà, de plutôt grandes entreprises, 43% qui ne sont pas couverts dans leur entreprise par un délégué syndical. Donc ça enlève quand même une partie des salariés. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est obligatoire la négociation, mais sans obligation de résultat et donc d'un accord, ou même que dans cet accord, il y ait un minimum, voilà, on pourrait très bien se dire, il y a un seuil minimum où on ne peut pas descendre en dessous. Au final, on a environ, sur les chiffres, le dernier chiffre de la DARES qui date, je crois, de 2 ou 3 ans, 17%, je crois, des entreprises hein, qui négociaient, qui ouvraient des négociations. Soit sur les salaires et primes, soit sur l'épargne salariale. Donc 17% des entreprises, alors comme c'est encore une fois des grandes entreprises, ça concerne quand même plus de 60% des salariés, mais on voit bien qu'il y a toujours, hein, voilà, c'est 30-40% de salariés qui ne sont pas couverts par tout ça. Donc bien sûr, effectivement, on pourrait essayer de mettre davantage de garde-fous, d'obligations, pour revenir à la proposition de projet de loi sur l'indexation des des salaires sur l'inflation. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'on voyait en fait plutôt dans qu'on a vu dans la période qu'on a appelée les 30 glorieuses, donc après-guerre et jusqu'à la crise, en gros, on a remis en cause tout ça. Donc c'est ce qu'on appelait en fait, et on mentionne dans l'ouvrage, le compromis fordiste, ce que les économistes sociologues aiment bien appeler le compromis fordiste lors de ces 30 glorieuses. Donc effectivement, on avait un certain partage des gains de productivité, qui était assez important dans ces années-là, et les salaires devaient suivre l'inflation et devaient, grâce à ces gains de productivité, on pouvait se permettre aussi ces hausses de salaire jusqu'à qu'effectivement il y ait crise dans les années 75-80.
Et c'est intéressant cette évolution et sur laquelle on va revenir en détail, mais ces NAO, ces négociations annuelles obligatoires, elles nous racontent aussi en creux ce qu'est aujourd'hui le système français, on va dire, de ces questions parfois brûlantes de négociations salariales. Je le disais, parfois, tout simplement, on n'arrive pas à aboutir à un accord. Il y a finalement la proposition faite par les représentants patronaux ne conviennent tout simplement pas aux représentants des salariés. Ça a été le cas chez Lidl tout début février. Alors là, c'était plus sur les conditions de travail que sur l'augmentation de 1,2% qui a été présentée. Mais ça a été le cas chez Michelin, pour le coup, sur les augmentations qui ont été jugées trop faibles. Et puis début novembre, par les salariés d'H&M qui se sont mis en grève car ils réclamaient 10% d'augmentation et leur direction leur a proposé entre 1 et 2% selon le degré d'ancienneté. Donc on voit que tout ça est tout de même source de conflits, source potentielle de ralentissement, de fracturation aussi des conditions de travail. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, Elise Penalvaïcher, c'est que lorsque la proposition de loi communiste a été rejetée, celle notamment de renforcer un peu ce cadre-là des NAO et de le rendre plus régulier, la sénatrice Les Républicains Frédérique Puissat a argumenté ainsi: notre logique politique est et reste de laisser les partenaires sociaux négocier entre eux et de ne surtout pas encourager l'État à administrer les salaires. C'est vraiment l'argument principal. Est-ce que ça résume bien, finalement, comment l'État conçoit, finalement, cette question des négociations salariales, selon vous?
Oui. Ce que ça montre bien, c'est que c'est des sujets très brûlants, parce que, comme je disais tout à l'heure, un salaire, c'est un montant, mais c'est aussi une part subjective. Et ce qui compte un peu dans tout ça, c'est pas seulement le montant qu'on va trouver, c'est la manière dont on justifie les augmentations et les écarts de rémunération entre les uns et les autres. Et ces justifications, elles renvoient à des grands principes de justice qu'on pense assez facilement mobilisables, le mérite, la performance, mais qui en fait ne sont pas du tout cela, parce que ni le mérite ni la performance ne sont facilement
mesurables,
quantifiables. En fait, c'est d'autres principes de justice. L'ancienneté, les conditions de travail, le marché de l'emploi, l'état du marché de l'emploi. Et selon les catégories de salariés, ces principes de justice vont varier. Et effectivement, dans ces négociations, à la fois, il faut se mettre d'accord sur un montant, mais il faut aussi être d'accord sur la manière dont on justifie ce montant. Et là, il y a différents types de principes de justice. Aux ouvriers, ça va plutôt être les conditions de travail. Les catégories cadres vont renvoyer aux structures du marché du travail. Et on voit bien chez les cadres, d'ailleurs dans la manière dont ils peuvent négocier, qu'ils négocient pas dans l'entreprise, mais aussi en fonction des autres entreprises, et ils mettent en place aussi des systèmes de mobilité et de circulation.
C'est l'argument de si ça me convient pas, j'irai ailleurs.
Voilà, c'est exactement ça. Si ça me convient, ou alors je suis allé voir ailleurs.
Et on me propose.
On me propose tant, alignez-vous ou je m'en vais. Et ça, c'est assez spécifique d'un type de marché de l'emploi comme négociation et de catégorie de salariés. Il y a aussi des questions de genre qui interviennent ici, parce que c'est plus compliqué de négocier aussi en fonction de ces caractéristiques. Les fonctionnaires, eux, ont plutôt tendance à mettre en avant le niveau de qualification et de diplôme. Donc on voit effectivement que ces grands principes de justice varient en fonction des catégories de salariés, varient aussi en fonction de la trajectoire biographique du salarié. On ne met pas en avant les mêmes choses en début de carrière qu'en fin de carrière. Donc voilà, ce qui est difficile, c'est de trouver aussi un accord sur la manière dont on vient justifier les répartitions et les écarts et les augmentations.
Et éviter au maximum les inégalités, parce que dans ce que vous nous dites, Elise Penalvaïcher, on voit quand même très fort. Il faut pouvoir argumenter d'avoir une valeur sur le marché du travail, d'avoir un certain niveau de diplôme ou une certaine ancienneté. Enfin, on voit potentiellement des écarts qui se creusent. Mais alors, il faut bien comprendre comment on en est arrivé là, finalement, à ce double mouvement qui consiste pour l'État à se dire débrouillez-vous dans le cadre de l'entreprise, mais aussi qui incite les individus à se confronter directement à l'évaluation qui est faite de leur personne. On peut le dire, assez subjective. Une question qui se pose d'autant plus qu'en 1978, ce sont encore les accords de branche qui prévalaient. C'est ce qu'on entend dans cet extrait du journal d'Interactualité du 27 avril 1978.
Le Premier ministre a donc écrit personnellement aux syndicats et aux patronats pour préciser les domaines dans lesquels il souhaite des négociations. Une lettre, Jean Girardot, dans laquelle M. Barre définit les orientations et les priorités de la politique que le gouvernement entend mener dans le domaine social.
Dans cette lettre, le Premier ministre assigne trois grands objectifs à la politique sociale. Le relèvement des bas salaires, l'amélioration de la situation de l'emploi et celle des conditions de travail. Mais pour atteindre ces objectifs, Raymond Barre compte sur la négociation, sur la concertation entre partenaires sociaux. Pour le secteur privé, il invite le patronat et les syndicats à conclure des accords par branche professionnelle et à fixer un salaire minimum réel. D'une façon générale, ces accords devraient aboutir au relèvement des bas salaires et en même temps rouvrir l'éventail des salaires des travailleurs manuels. Même politique dans le secteur public, des négociations salariales s'ouvriront très prochainement dans la fonction publique, à la SNCF et au charbonnage, les trois secteurs dans lesquels aucun accord n'a été conclu l'année dernière.
Camille Signoretto, les années 70 sont un point de bascule, vous le dites et vous l'avez déjà évoqué au tout début de l'émission. Le ralentissement de la croissance liée aux crises pétrolières, aux crises de l'inflation, de la productivité, conduit le patronat, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, à renoncer à la politique contractuelle donnant-donnant qu'il y avait jusqu'alors consentie dans l'espoir d'apaiser l'insubordination ouvrière et notamment liée à mai 68. Et puis les années 70, c'est aussi la fin d'un système qui avait été mis en place en 1945, la fin des classifications parodies du nom de l'ancien ministre du Travail, Alexandre Parodi. Finalement, au nom de quoi on abolit tout le système qui prévalait jusqu'ici?
Alors, au nom de quoi? Au nom surtout d'un argument économique, je pense. On était dans une période où on pouvait se permettre, en tout cas c'est ce qu'on va dire, hein, se permettre un certain partage, encore une fois, de la valeur, puisque c'est le mot qu'on entend souvent ces derniers temps, partage de la valeur, donc partage en tout cas des richesses produites par les entreprises et les salariés à l'intérieur de ces entreprises. Et puis il y a côté volet social, en fait, une volonté de... qui commence, oui, dès le début des années 80, notamment avec les lois Roux en 1982, donner plus de place aux partenaires sociaux au niveau de la branche, mais aussi au niveau de l'entreprise.
Donc à l'échelle, on réduit l'échelle finalement.
Voilà, on va au plus près. Donc ce mouvement de décentralisation de la négociation collective, c'est plutôt accéléré là ces 15-20 dernières années. Et aujourd'hui, l'aboutissement pour l'instant, c'est les ordonnances Macron. Cet argument que c'est on est au plus près des entreprises et de leurs besoins. Et donc on va pouvoir adapter les règles, donc le droit aussi, hein, aux besoins des entreprises, notamment aux besoins de flexibilité, de maintien de la compétitivité, de maintien des emplois. L'objectif. Hein. Et derrière, d'ailleurs, il y a des théories économiques, des modèles de négociation collective qui disent que le niveau de branche, en fait, c'est le pire en termes d'efficacité économique. Et donc, il vaut mieux négocier soit au niveau national, soit au niveau des entreprises. Donc, c'est vraiment ça. Dans toutes les réformes du droit du travail, du droit de la négociation collective, qui s'est ensuite déroulée, voilà, surtout depuis les années 2000.
Donc si on vous comprend bien, si on reprend le fil, Camille Signoretto, il y a ces fameuses lois Auroux de 1982 qui donnent la possibilité, ce qui n'est pas non plus imposé, mais qui donnent la possibilité aux directions d'entreprise de conclure des accords dérogatoires aux accords de branche. S'en suivent tout de même, il faut le mentionner, les lois Fillon de 2004 qui, elles aussi, institutionnalisent, on va dire cette tendance, qui donne la priorité aux règles issues des accords d'entreprise par rapport à celles des conventions collectives de branche. Et puis évidemment, ces fameuses lois dites, ces ordonnances dites travail de 2007 qui acte finalement ce mouvement-là. Élise Penalva-Hichère, comment on explique cette lente transformation, mais qui devient là encore une forme de norme aussi.
Alors, Camille Signoretto vient de très bien décrire ce mouvement de décentralisation de la règle ou de la régulation. Je pense qu'on peut lui ajouter un autre mouvement un peu concomitant, c'est qu'au cours du XXe siècle, on voit plutôt une baisse des inégalités, notamment des inégalités liées au patrimoine. Et à partir des années 80, on voit un retour des inégalités, mais non pas liées aux revenus du patrimoine, mais aux revenus du travail, avec une catégorie de working rich, qui est vraiment donc des salariés, mais très très riches, et qui sont vraiment payés fortement. Et c'est effectivement un retour là où la prime était plutôt l'apanage du salaire ouvrier, comme je le disais, mais un retour de la prime par le haut des pyramides et des échelles salariales, et qui va aussi imposer un modèle comme quoi, effectivement, la prime, ça sert à motiver. Et dans les faits, cette prime, elle ne sert pas qu'à motiver, elle a aussi d'autres usages. On a vu qu'elle était majoritaire aujourd'hui dans les packages de rémunération. Et dans les faits, son recours va être très variable selon les secteurs d'activité, selon les types de salariés. Et elle ne va pas être là que pour motiver, elle va aussi être là pour fidéliser certaines de catégories de salariés. Par exemple, les jeunes, hein, qu'on ne peut pas payer fortement du fait du peu d'ancienneté qu'ils ont, on va compenser par rapport à la prime, ou aussi ça peut servir par exemple à placardiser certaines catégories de salariés comme les seniors, à qui on ne verse plus de primes pour leur signifier effectivement qu'ils sont dans des positions proches du licenciement.
Donc on le comprend, la prime finalement fait passer un message, peut-être plus encore que sa valeur monétaire. C'est une façon aussi de jouer sur le comportement des individus. On a ce mouvement-là, donc de retour en grâce, parce que vous nous l'avez dit, c'est quelque chose qui vient de bien plus loin, mais de retour en grâce de la prime et du bonus lié à ce mouvement de décentralisation aussi du cadre des négociations, et c'est donc l'avènement de la prime.
Olivier Dussopt, alors ministre du Travail et de l'Emploi, en octobre 2022.
Nous avons aussi ces outils de partage de valeur et de primes. Quand certaines organisations syndicales nous disent la prime, c'est ponctuel, ça n'est pas assujetti à cotisation, et nous préférons une rémunération sous forme de salaire. Je peux entendre le raisonnement, mais je sais aussi que les salariés qui sont concernés par ces primes sont heureux de les toucher, et c'est utile. Ça permet, et c'est le mécanisme que nous avons mis en place, ça permet aux entreprises de partager plus facilement la valeur, de le faire sans trop gréver le coût du travail, puisque la plupart des primes, je pense notamment à la prime de partage de valeur, à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sont exonérées de cotisations, exonérées de fiscalité, et donc de donner du pouvoir d'achat sans gréver la compétitivité des entreprises.
Stéphane Malchaud, directeur de la brasserie Mollard, en décembre 2024.
Cette année, étant donné que c'était une bonne année, on pense distribuer environ 30 000 euros. Quelqu'un qui postule, je dis vous allez gagner tant par an, plus soit un intéressement, soit une prime Macron, c'est toujours une carotte qui peut amener le salarié à décider de travailler chez vous ou aller travailler ailleurs.
Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis et directeur du journal L'Humanité, en juillet 2022.
Vous savez combien il existe aujourd'hui de primes ? Donc il y a la prime de partage de la valeur ou prime Macron, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime d'ancienneté, la prime de 13e mois, la prime pour l'emploi, et même il en existe une prime pour les conditions de travail. Donc il y a 6, voire 7 primes, s'il faut les fractionner en 4, imaginez le travail que ça représente pour les entreprises. D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait supprimer toutes ces primes, et ce qui serait plus simple, c'est qu'on verse du salaire aux salariés.
Élise Penel-Vaïcher, on entendait un argument dans la bouche notamment d'Olivier Dussopt, celui que finalement les salariés sont heureux de toucher cette prime. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que ça les arrange ? Quelle a été leur réaction finalement quand il y a eu cette individualisation croissante du salaire ? Quelle est la prime et le bonus ?
Alors moi, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout trouvé que ça les rendait heureux. Au contraire, le gros résultat de l'enquête que j'ai menée, qui est à la fois une enquête qualitative par entretien, mais aussi une enquête quantitative à partir de statistiques, c'est que la prime, notamment individuelle, à cause d'un phénomène de comparaison relative, c'est-à-dire que comme avec l'individualisation et la complexification, c'est pas très bien combien on touche, pour évaluer sa prime, on va aller la comparer à ce que gagnent les autres. Et que ça, en fait, à cause d'un phénomène assez bien connu en sciences sociales qui s'appelle la frustration relative, même quand on touche une prime, on va être plutôt insatisfait quand elle est individuelle. Pourquoi ? Parce qu'on va aller comparer à ce que l'autre a touché, et même s'il a touché moins que nous, on estime qu'il n'aurait pas dû toucher du tout. Donc voilà, même quand on touche de la prime individuelle, ça crée plutôt de la frustration que de la satisfaction.
Camille Signoretto, sur ce sujet.
Oui, il y a plusieurs choses qui ont été dites dans ces extraits qui montrent qu'effectivement, bon, on met en avant beaucoup les primes pour certaines choses. Ça fait du bien aux salariés, ou ça sent éventuellement heureux les salariés, mais en fait, du salaire, des augmentations de salaire généralisées qui effectivement prennent une place moins forte aujourd'hui dans les entreprises, c'est quand même quelque chose de pérenne. Là, dans les années où il y a eu l'inflation, ça permettrait justement de contrer les effets de l'inflation. Et puis, ces primes sont pas complètement neutres sur la position également des organisations syndicales. Nous, on dit plutôt que ça a tendance à les affaiblir, en fait, à la fois parce que c'est quelque chose quand même de plus individualisé.
Donc, qui se passe un peu hors de leur radar.
On le dit. C'est lié à l'individu, c'est lié à la rentabilité de l'entreprise, par l'accord d'intéressement, donc au résultat financier de l'entreprise. Le côté désocialisé, défiscalisé, on peut se dire, OK, on ne va pas payer d'impôts dessus, sauf qu'en fait, derrière, c'est les cotisations sociales permettent de financer le système de sécurité sociale. Donc tout ça participe aussi au trou, comme on dit, qui existe plus ou moins de la sécurité sociale. Et donc sur les syndicats, ça les affaiblit parce que il y a une position difficile des syndicats qui essayent de négocier plutôt des augmentations généralisées lors des NAO, comme on a dit tout à l'heure, ou autres négociations. Et en même temps, de l'autre côté, effectivement, les directions d'entreprise vont plutôt négocier des primes, puisque, encore une fois, on peut revenir dessus, c'est transitoire. Et les salariés, eux, ils disent, on veut de toute façon une augmentation du salaire, donc si ça passe par une prime, moi je veux bien, c'est déjà ça, l'augmentation généralisée, on n'est pas sûr de l'avoir. Et donc, il peut y avoir, effectivement, nous, on l'a vu dans une des entreprises, une position d'un syndicat qui, au départ, ne voulait pas négocier cette prime, cet accord d'intéressement, par exemple, mais sous la pression aussi des salariés qui se disent, c'est mieux que rien, on est obligé d'aller négocier. Et donc, voilà, tout ce mouvement participe également à un affaiblissement aussi des salariés, des organisations syndicales, dans les entreprises.
Et est-ce qu'on peut parler, Camille Signoretto, d'une stratégie ? Est-ce que c'est vraiment dans le viseur aussi de la mise en place de ces primes, donc de fait individuelles, que d'affaiblir les mouvements syndicaux ? Est-ce que c'est le très basique diviser pour mieux régner et que donc on donne un petit peu à certains et ça évite d'avoir des augmentations salariales en masse et des revendications trop fortes de la part des représentants syndicaux ?
Oui, probablement dans certaines grandes entreprises, ça peut être vu comme une stratégie managériale où de toute façon les négociations sont institutionnalisées, donc on sait peut-être qu'on va devoir en tant que patron accorder une augmentation, mais il vaut mieux que celle-ci passe par une prime dont on va négocier la hausse la plus faible possible. Par ailleurs, ce qu'on a vu aussi dans certains types d'entreprises, ce qu'on a appelé les PME innovantes, dynamique, c'est-à-dire vraiment les start-up, les cabinets de conseil, où on retrouve une grande part des salariés qui sont plutôt cadres, qui ont l'autonomie. Ces salariés sont finalement dans ces organisations, les politiques d'individualisation sont sur les salaires, mais aussi sur les carrières, sur le départ. Donc finalement aussi, ces politiques-là vont bien convenir à ces salariés qui, dans leur rapport au travail, dans leur ethos, comme on dit en sociologie, ont accepté que tout se passe par la carrière individuelle, et donc on va aller négocier individuellement le salaire, mais moins passer par les organisations syndicales, mais c'est... Ça vaut pour les salariés qui aussi ont un certain pouvoir de négociation, donc une qualification rare sur le marché du travail, par exemple, qui peuvent, si on leur augmente pas le salaire, menacer de partir, parce que de toute façon, ils trouveront facilement un emploi ailleurs. Voilà. Donc, il y a aussi ces politiques qui peuvent convenir à certains types, en tout cas, d'organisation de salariés. Mais tout ça crée quand même des inégalités entre les salariés.
Camille Signoretto, pour terminer peut-être ce premier tour d'horizon aussi autour de ce cadre plus global qui constitue, bon, on comprend, une forme de relâchement de l'État régulateur qui, on va dire, se prend de la distance avec le cadre des négociations jusqu'à une individualisation par individu qui doit, de fait, met en exergue ses capacités, ses compétences, ses résultats potentiellement. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites dans votre ouvrage que chaque année, le nombre d'accords d'entreprise recensés par le ministère du Travail fait office de baromètre de la qualité du dialogue social et de la capacité des partenaires sociaux à s'engager sur la voie de compromis pour mieux tourner le dos à la culture du conflit qui aurait longtemps caractérisé l'histoire des relations professionnelles en France. Est-ce qu'on peut dire que tout de même l'État aurait intérêt à ce que des accords d'entreprise soient signés et avec des partenaires très officiels et donc avec des accords quantifiables et une image qui est renvoyée finalement? Est-ce que l'État n'aurait pas intérêt à ce que tout cela revienne dans un cadre institutionnel quand même bien défini?
Oui, alors en fait le discours est assez paradoxal parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on a donné un argument économique pour cette décentralisation, ces politiques de décentralisation de la négociation collective, mais depuis les lois Fillon, en gros 2004 ou même avant, en fait, l'autre argument, c'est de développer le dialogue social. Donc le dialogue, effectivement, entre partenaires sociaux, organisations syndicales et
patronat. C'est quand même assez surprenant.
Et l'indice que les représentants des différents, enfin au gouvernement aiment bien prendre pour cela, c'est le nombre d'accords. Le nombre d'accords signés qui ne ferait que d'augmenter, y compris dans les petites entreprises. Donc ce serait le signe que voilà, le dialogue social est aussi plus dynamique dans les petites entreprises. Mais un texte signé, un accord, ne dit pas grand-chose si on ne va pas voir un petit peu plus dans le détail. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans les enquêtes, dans les entreprises, qu'on relate dans l'ouvrage. Et notamment dans ce contexte des petites entreprises, peut y avoir effectivement des accords signés, pas non plus énormément, hein, parce que dans ces petites entreprises, il y a encore peu de représentants du personnel élus, encore moins d'organisations syndicales. Mais surtout, ce qu'on a vu vraiment, voilà, en allant dans les enquêtes et en parlant, en discutant à la fois avec les représentants de la direction et les représentants syndicaux, c'est que c'est pas la négociation, en fait. Même quand il y a un accord, souvent, c'est une décision, voilà, presque unilatérale de la direction. De l'employeur qui va proposer un texte et qui soumet à signature du représentant élu, qui, ce représentant élu, bon, il n'a pas forcément de ressources, il est souvent non syndiqué, il n'a pas de formation ni en droit, il ne sait pas vraiment ce que c'est négocier. Il est dans cette relation de subordination quand même, qui est le contrat de travail, même si en tant que représentant élu, il est protégé. Mais voilà, hein, quand on est dans une petite entreprise, ça peut quand même rapidement se retourner contre vous. Et donc voilà, donc il y a des accords, mais quand on va regarder le contenu des accords, d'une part, bon, c'est pas forcément quelque chose que les salariés ont gagné, et par ailleurs, c'est surtout un texte qui est proposé de la part de l'employeur et qui est signé. Mais cet argument, voilà, de renforcer le dialogue social est aussi quelque chose qui est mis en avant beaucoup par les politiques ces dernières années, tout en ayant une politique au niveau national plutôt d'affaiblissement de la légitimité des organisations syndicales. On l'a vu, hein, il y a 2 ans avec la réforme des retraites, il y a eu quand même des mobilisations énormes à la fois dans la rue, des organisations syndicales, des grèves dans certaines grandes entreprises, des organisations syndicales qui proposaient certaines choses, hein, qui étaient quand même force de proposition. Et au final, bon, voilà, en face, le gouvernement n'a rien entendu. Ce qui donne pas une image au niveau national de parle avec vous, organisation syndicale, je vous laisse faire et je vous écoute et je peux éventuellement voir vos propositions, discuter vos propositions.
Alors nous allons voir justement comment se reconfigure le dialogue social ou pas au sein des entreprises. On a parlé de la taille des entreprises, mais nous allons voir que beaucoup de facteurs jouent aussi sur la façon dont se négocient les salaires et comment le rapport de force entre salariés et patronat se trouve donc de fait profondément modifié. Ce sera juste après l'augmentation de Jacques Dutronc, un titre sorti en 1968.
Secouez-vous, réveillez-vous, aujourd'hui c'est le grand jour. Levez-vous, habillez-vous, aujourd'hui je fais mon discours. Profitez-en, suivez-moi. On va aller voir le patron pour une augmentation. Secouez-vous, courage les gars, l'heure est décisive. Soyez fermes, on les aura et pendant les gencives. Profitez-en, dites comme moi. Et bien patron, et bien voilà, nous avons pensé que tout ça, ça enfin c'était pas ça. Puis enfin qu'il faudrait peut-être revoir ça.
Pour l'instant c'est la TVA.
Ah ouais, mais... Bah oui, faudrait sûrement expliquer ça, mais en fait il a raison, bah oui, faudrait prendre, mais c'est ça, oui, bah oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça.
Bien à l'écoute de France Culture, nous nous demandons aujourd'hui pourquoi il est si difficile de négocier son salaire et dans quel cadre surtout, avec l'économiste Camille Signoretto et la sociologue Élise Penalva-Hichère.
L'année a été difficile, comme tu le sais. Dans un monde rêvé, j'aurais aimé proposer à tout le monde des choses intéressantes. Hein. Mais là, malheureusement, c'est sûr, hein, si on pouvait claquer des doigts et avoir ce qu'on veut... Tiens, regarde-moi par exemple. Je rêve d'aller aux Seychelles. Bah, c'est ma femme qui va être déçue, hein. Pas encore pour cette année. Bref, pour revenir à notre entretien, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de tes ambitions pour l'année prochaine. Ton rêve, si je peux dire. Moi, mon rêve pour toi, ce serait de te voir continuer à avancer dans notre projet Flex to Win. Ça, c'est important. Donc, je t'écoute, je suis là pour ça. Ton rêve, sans toi libre. Safe space.
Mon rêve... Non, moi, mon rêve, c'est juste d'avoir une augmentation.
Voilà, un extrait du court-métrage de Régis Granel, L'Augmentation, sorti en 2022. Élise Penalva-Hichère, on a évoqué la question de savoir si les salariés étaient heureux, comme le suggérait Olivier Dussopt, de voir ce système de primes advenir. Très concrètement, comment se passe la négociation une fois qu'on sort des cadres collectifs, des cadres bien institués que sont notamment les négociations entre représentants du patronat et représentants syndicaux? Clairement, c'est du gré à gré, c'est de l'individu à l'individu, avec le supérieur hiérarchique direct, ou un peu plus éloigné, comment se passent ces relations-là et comment se passe de fait la négociation lorsqu'on est un individu seul face à un autre individu?
Alors, quand on est au niveau individuel et non plus au niveau collectif, effectivement, va y avoir différentes temporalités de la négociation. Mais il y en a une qui est quand même assez importante, c'est celle de l'entretien annuel de job evaluation, généralement avec son supérieur hiérarchique. Et là, j'ai eu la chance d'interviewer à la fois des salariés et des supérieurs hiérarchiques qui donc devaient gérer aussi leur équipe sous cet aspect-là. Et souvent, ils sont très 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 mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce que c'est pas eux qui décident des politiques salariales, ce sont les directions. Et parce que en revanche, c'est eux qui doivent les mettre en place. Et c'est à eux de faire choix, ces arbitrages, souvent pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe à 2,5%, 3% et ils doivent répartir des choses infinitésimales entre les autres pour à la fois satisfaire tout le monde et marquer des écarts. Et ça, c'est extrêmement difficile à tenir, notamment parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est à la fois des montants, mais c'est aussi des principes de justice. justice. Et c'est pas eux qui décident des principes de justice et qui les donnent à voir aux salariés. C'est-à-dire que, voilà, souvent, ces managers, ils sont de bonne foi. Hein. J'en ai rencontré qui avaient mis des mois à créer des indicateurs sous des fichiers Excel hyper complexes et précis pour essayer d'évaluer le travail et de s'aider aussi dans cette prise de décision. Mmh. Et ils comprenaient pas parce que les salariés rejetaient un peu ces indicateurs de quantification, justement parce qu'on n'avait pas les principes de justice derrière. Et donc, effectivement, eux, ça les met dans des situations qu'ils disent assez inconfortables parce que cette prime qui est supposée être un instrument de motivation, bah, en fait, dans les équipes, elle met un peu le bazar et elle n'a pas du tout les effets escomptés. Donc, effectivement, ça, c'est un premier point. L'autre point, l'autre temps de négociation, c'est au moment de l'embauche. Et effectivement, là, on a aujourd'hui quelque chose qui va peut-être venir bouger un peu les choses. C'est la directive européenne, avec effectivement, dans les annonces, les niveaux de salaire qui vont être beaucoup plus transparents, parce que cette directive européenne va mettre en place une plus grande transparence salariale.
C'est ce que j'allais vous demander, Élise Penel-Vaïchard. Vous me parliez de tableau Excel mis en place par certains managers, mais on a l'impression que ça relève un peu de la bonne volonté, ou en tout cas du mode d'organisation de chacun. On est d'accord qu'il n'y a pas d'obligation en ce qui concerne la rémunération, et je ne parle pas de la rémunération encore des oui. dirigeants, mais en ce qui concerne cette méthode d'évaluation de la prime et donc des salariés, en soi, il y a un gros manque de transparence au sein des entreprises. Ça joue aussi potentiellement.
Oui. Il y a un gros manque de transparence à la fois sur les montants, mais aussi sur comment est-ce qu'on vient justifier des écarts. Et ce manque de transparence, il est un peu paradoxal, parce que pour autant, on a des outils de quantification du travail sur lesquels ces primes essayent de s'asseoir pour mieux se justifier. Mais ces outils de quantification du travail, généralement, ils ratent un peu leur cible. Et pourquoi ? Parce que le travail reste aussi collectif. Les salariés travaillent ensemble et sont aussi en interdépendance pour travailler. Et parce que cette dimension quantifiée, si elle se veut plus objective, en fait, elle floute aussi les principes de justice qu'on mobilise pour faire des arbitrages et pour produire des écarts et qui ne doivent pas devenir des inégalités.
Camille Signoretto, vous nous avez expliqué juste avant la pause musicale que finalement, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, que c'était une question, vous avez dit dans les petites entreprises par exemple, qu'il y avait essentiellement une question de taille pour expliquer comment aujourd'hui s'organisait le dialogue social au sein des entreprises. Est-ce qu'on peut faire un lien de corrélation directe entre taille de l'entreprise et recours justement à ce système de primes, ou est-ce que c'est davantage une question de secteur? On a beaucoup évoqué cet imaginaire aussi de la branche très dynamique, notamment liée à la finance, entre autres. Est-ce qu'il y a des critères qu'on peut faire ressortir comme ça qui réinstitutionnalisent, on va dire, ou qui redonnent une classification possible de la façon dont s'organise le dialogue social, et est-ce que c'est uniquement en fonction de la taille ?
Alors, la taille est vraiment un élément assez structurant, mais aussi parce que la taille joue sur certaines obligations, plus ou moins de 50 salariés, et avec la taille croît la présence des représentants syndicaux, donc des délégués syndicaux, du taux de syndicalisation des salariés, etc. Après, dans les entreprises, nous, ce qu'on a vu, deux contextes d'organisation où elles sont assez grandes, à la fois des grandes entreprises plutôt du secteur industriel, donc sur un secteur très financiarisé, donc lié à des cotations en bourse, ou à la fois on a des entreprises qui vont pas forcément bien, qui sont en restructuration, et là c'est difficile de négocier, on essaye de négocier le moins de pertes d'emplois possible, on va dire. Et nous, on est allé quand même voir des entreprises où ça allait bien. Et donc là, on arrive, hein, les syndicats arrivent encore à négocier, mais il faut une ou des forces syndicales assez importantes qui puissent aussi s'unir pour vraiment être ensemble en face des représentants patronaux. Ils doivent pouvoir mobiliser les salariés, donc il doit y avoir encore des collectifs de travail qui soient pas trop fragmentés ni précarisés, que ça soit par les CDD ou la sous-traitance. Donc il faut tout un élément pour quand même que ça marche encore. Et là, dans ces entreprises, encore une fois, ça sera plutôt des primes d'intéressement, de participation, plus que des augmentations généralisées. Mais pour, je voudrais juste aussi mentionner, parce qu'on parlait d'inégalités salariales, il y a des salariés, on a peu parlé, on en a parlé un peu tout à l'heure avec le SMIC, mais c'est ces travailleurs de première ligne, de seconde ligne, lors de la crise du Covid, qu'on a dit travailleurs essentiels, qui sont dans des secteurs, donc c'est notamment le secteur sanitaire et social, où on est allé enquêter également. Et là, c'est un secteur très compliqué. Les conditions de travail sont très mauvaises, mais les conditions d'emploi aussi. Et malgré le fait que certains métiers sont en tension, il y a peu de rapports de force pour essayer de négocier des salaires. Pourquoi ? Alors, parce que effectivement, il y a une difficulté de mobilisation, des syndicats qui sont pas toujours présents, des collectifs très justement fragmentés, précarisés,
potentiellement une contrainte budgétaire importante.
Et voilà, et des contraintes budgétaires très importantes parce que elles sont en lien avec des si elles remplaçaient voilà les du public avant, elles sont liées à des subventions publiques. Et donc c'est là où l'État peut encore jouer un rôle. C'est aussi dans ces secteurs en diminuant les contraintes, en tout cas budgétaires, pour ce secteur.
On le voit, l'État régulateur, en tout cas sur la question des salaires, qui a eu tendance à prendre de la distance, pourrait aussi se ressaisir de cette question. Merci infiniment à toutes les deux, Camille Signoretto et Élise Penelvaïcher, d'avoir participé à cette émission.